du côté de Québec. Cathy, on a un extrait de François Legault.
Oui, tout à fait.
Sur ABI, M. Legault, oui. Est-ce qu'on voit que ce n'est pas à la satisfaction vraiment des syndiqués, là, mais ils ont quand même accepté là?
Des syndiqués ou des syndicats?
Je ne vais même pas prononcer là-dessus, je vous laisse vous prononcer. Alors, comment vous réagissez au règlement, même si les gens ne sont pas totalement satisfaits, finalement?
Bien, écoutez, les travailleurs, les syndiqués ont voté à 80 % pour l'entente. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les travailleurs, puis toute la région. Là, c'est quand même un impact considérable. On parle d'un impact de 500 millions de dollars par année pour la Mauricie puis le centre du Québec. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Et le syndicat affirme quand même que le fait que vous vous soyez quand même mêlé du conflit en le commentant, ouais. ça a jeté... Disons que ça a eu un impact négatif sur le règlement.
Ça a peut-être aidé à ce que le règlement se fasse.
C'est comme ça que vous le voyez?
Bien, écoutez, moi je pense, j'ai donné mon opinion. J'ai écouté les deux parties, j'ai donné mon opinion. Et puis, les travailleurs ont eu la même opinion que moi.
Voilà, c'est clair et net. Il est pro-syndiqué, mais pas pro-syndicat.
Les travailleurs ont eu la même opinion que moi. Ils étaient d'accord qu'ils gagnaient suffisamment cher. C'est ça que ça veut dire.
Exactement. Un de ceux qui attendait évidemment la nouvelle hier avec beaucoup d'impatience, c'est le président et directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Maurice Richard. Monsieur Richard, bon mercredi.
Oui, bonjour à vous deux.
Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien.
Monsieur Richard, si on a poussé un soupir de soulagement de notre côté, j'imagine que vous, en tant que PDG de la Société du parc industriel et portuaire, vous aussi, hier, ça a dû être un soulagement. Là.
Oui, bien, nous, il faut comprendre que c'est une perte d'au-delà d'1,5 million, là, le fait que Alcoa ne soit pas à sa pleine production. Ils reçoivent, évidemment, par bateau, par le maritime, l'alumine, qui vient de la Jamaïque, du Brésil, d'Australie. Alors, nous, c'est un revenu majeur qu'on a été privé là, durant le 18 mois. Là. Donc oui, effectivement, on dit ouf, bonne nouvelle. Et bonne nouvelle aussi pour tous les voisins dans le parc. Il ne faut pas oublier que c'est un soulagement. Là. Quand tu as un voisin qui chicane, là, c'est jamais trop bon pour ta propre entreprise. Alors non, c'est une très, très bonne nouvelle et pour le parc et pour l'ensemble des deux régions, Mauricie, Centre du Québec particulièrement.
Et Monsieur Richard, pour Sural, là, est-ce qu'il y a des développements? Qu'est-ce qui va se passer? On sait que Sural est en arrêt parce que Bécancour ABI ne fonctionnait pas, produisait pas.
Ben, c'était leur principal client.
C'est ça, c'était leur principal client. C'est quoi, comment vous envisagez la suite des choses pour ce client-là?
Ben, je pense que ça, c'est positif. C'est très positif parce que l'avantage de Sural, c'était d'avoir, comme vous savez, l'aluminium liquide par arrière directement de l'aluminerie. Donc, ils n'ont pas besoin de la faire fondre. Donc, économiquement intéressant pour celui qui fabrique du fil électrique là, en aluminium. Alors, cette entreprise-là, Sural, au moment où nous parlons, il y a des gens intéressés, des consortiums, à faire la relance de cette entreprise-là. Alors, ça pourrait nous donner comme avantage en région d'avoir une double bonne nouvelle. Alcoa qui repart et ce que nous souhaitons, éventuellement, de nouveaux clients pour repartir sur le même nom ou sous un autre nom, la production de fils électriques. Ça pourrait être intéressant parce que c'est une centaine d'emplois, là aussi, directs qui est relié à cette entreprise-là depuis quelques mois fermée parce qu'ils ont eu des problèmes financiers au niveau de l'entreprise. Sural étant des investisseurs, une famille provenant du Venezuela, et ils ont deux investissements en région, hein. Une entreprise à Victoriaville et celle de Bécancour à côté d'Alcoa, effectivement.
Oui, effectivement, M. Richard, je veux juste préciser, parce que Sural, évidemment, souffrait directement du conflit à l'ABI, donc la production avait été arrêtée, et après l'arrêt de la production à Sural, l'entreprise a effectivement été mise en vente. Ça concerne les usines dont vous venez de parler, celle de Bécancour et celle de Victoriaville. Alors, pour l'instant, avec Sural, on en est là.
On en est là, mais c'est positif. Parce que ça réactive, s'il avait fallu que la réponse soit contraire hier et qu'on s'orientait vers une fermeture de l'aluminerie, là, ça voulait dire pas question d'approvisionnement d'aluminium liquide là, pour Sural dans le futur. Là, c'est le contraire. Là, ils viennent d'avoir, en tout cas, une certaine possibilité que cette Sural reparte avec cet avantage-là de l'aluminium liquide qui arrive de son voisin. Ça réactive donc cette hypothèse de réouverture éventuellement de Sural. Et là, ça serait intéressant aussi.
Ben, c'est très intéressant. Dites-moi, M. Richard, quand une usine, une entreprise dans le parc industriel décide d'agrandir, de se moderniser, d'investir, vous êtes toujours partie prenante, pas nécessairement financièrement, mais techniquement. Alors, voir si les terrains sont disponibles à capacité. Oui. Bon, est-ce que pour l'ABI, est-ce qu'il y a des choses qui avaient été, vous avez eu connaissance comme président du parc industriel d'investissements futurs à prévoir au niveau de ces installations-là? Parce que, il me semble que ça faisait partie de leur plan d'investissement.
Oui, avec raison, parce que en fait, l'idée, c'est de... L'usine au-delà de 30 ans et une des intentions des propriétaires serait de passer ça à P60, qui est la technologie qu'on appelle dans le jargon Rio Tinto. Alors, plus moderne, besoin d'un peu moins de personnel, donc plus technique, plus technologique et meilleur au niveau environnemental aussi. Donc, inévitablement, Alcoa devra s'orienter, nous pensons, vers la nouvelle technologie. Donc, ça, c'est une mouvance qui va obliger inévitablement des centaines de millions d'investissements par l'entreprise. Alors, tout ça, cette relance-là, cette réouverture-là, inévitablement, va s'orienter vers des modifications de façon de faire à l'aluminerie pour la rendre tout à fait à jour dans le domaine de la production d'aluminium au Québec.
Monsieur Richard, je pense que vous êtes à même de constater qu'il y a un impact aussi pour des commerces, des entreprises qui sont autour d'ABI. Bon, la centrale nucléaire Gentilly 2, ça ne relève pas de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancourt, mais il reste que quand ça avait fermé, ça avait eu un impact sur plusieurs commerces aux alentours, dans les secteurs Gentilly à Bécancourt également. On a évité un autre drame de ce genre-là hier avec le vote des travailleurs.
Vous avez raison. En fait, tout ce qu'on appelle le monde de la sous-traitance, ça va du dépanneur à aller au restaurant, au garagiste. C'est incroyable l'impact que ça aurait eu s'il avait fallu fermer. Là. C'était 1000 emplois directs, mais les familles et tous les achats, toute l'économie régionale, ah non, on dit ouf avec raison. Là. Ça vient de relancer l'économie, tout le milieu, et rappelons-nous que c'est à peu près, d'après moi, le quart rive sud et le trois quarts rive nord, l'impact économique là, direct au niveau de la sous-traitance. Toutes les entreprises de soutien qu'on appelle, là, ben eux, ils vont inévitablement être en contact avec la réouverture de l'aluminerie.
Ce que vous dites, le quart rive sud, trois quarts rive nord, on parle des endroits où les gens demeurent, les gens qui travaillent à l'ABI, il y en a trois quarts qui demeurent sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.
Oui, je pense qu'on ne serait pas malhonnête de dire c'est la même chose pour l'ensemble économique, tant au niveau des produits, des sous-produits. Et puis, c'est un peu normal, la densité de population étant sur la rive nord. Donc, cette entreprise-là a l'impact, je pense, un quart, trois quarts en fonction des deux rives. Mais c'est correct, c'est la même région au total. Le pont de la Violette, c'est un cordon ombilical. Là. C'est un lien rive nord, rive sud. Mais je ne pense pas me tromper en disant que c'est à peu près ça, l'impact économique.
On regarde vers l'avenir, M. Richard?
Oui.
Tout à fait, tout à fait. Et en passant, il y a d'autres dossiers.
C'est ça, j'allais dire. Est-ce
avec
que
Julie
c'est
est au
ça.
Courant avec
est-ce
des
que
enfants
d'autres dossiers?
De
Parce qu'on est privilégié. C'est ça, on est privilégié d'avoir un parc industriel de cette envergure-là pour recevoir des grandes entreprises qui sont souvent en lien en termes de production, qui sont interreliées, interdépendantes. Alors, je suis convaincue qu'il y a d'autres beaux projets dans les cartons, M. Richard.
Oui. Tout à fait exact, et c'est le fun, ça c'était un moteur, parce que quand tu reçois des investisseurs étrangers, puis il y a quelqu'un qui est en lock-out, là, c'est assez compliqué d'expliquer. Là,
oui, effectivement.
Puis la première question qui lui vient à l'esprit, c'est de dire, ah, ils ont-tu un problème de salaire? Mm-hmm. Oups,
ouais.
Et là, tu disais, non, c'est pas vraiment un problème de salaire, puis tu essayes de passer un autre appel, mais c'est délicat quand tu es en autobus, puis tu dois contourner. Là.
Effectivement, c'est assez difficile à contourner.
On n'a pas souvent une deuxième chance de faire une bonne première impression.
Mais c'est ça, tout à fait.
Vous avez raison.
Tout à fait.
M. Richard, merci beaucoup.
Mais c'est positif. Je vous remercie bien.
Vous remercie,
bonjour à vous deux.
Maurice. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Maurice Richard est président et directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancourt.